Et maintenant, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, les Européens pourront-ils sauver l'accord? L'Iran va-t-il reprendre ses activités nucléaires? Y a-t-il un risque de confrontation directe au Proche-Orient? Avec Nicolas Falaise du service international de RFI, nous recevons dans les 20 prochaines minutes Bertrand Badie, professeur à Sciences Po Paris. Son dernier livre, Nous ne sommes pas seuls au monde, aux éditions de La Découverte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et nous sommes en ligne avec Clément Terme, chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'International Institute for Strategic Studies de Londres. On appellera aussi Guilhem Deltey à Jérusalem. Israël est l'un des rares pays à se satisfaire de la décision américaine. Et on passera en revue les commentaires de la presse française avec Frédéric Couteau.
Édition spéciale.
Donald Trump a donc choisi l'option dure, la sortie pure et simple de l'accord de 2015 et le rétablissement des sanctions contre l'Iran. Bertrand Badie, est-ce que c'est grave ?
C'est très grave. C'est très grave à court terme, c'est très grave à moyen terme, c'est très grave à long terme. C'est très grave à court terme parce que c'est toute la situation au Moyen-Orient qui se trouve prise de fièvre et on ne sait pas où cela peut s'arrêter. C'est très grave à moyen terme parce que c'est encore une manière d'empêcher les puissances régionales de pouvoir s'affirmer, d'être reconnues comme telles, d'être banalisées dans le jeu régional et international. Je pense bien sûr à l'Iran, mais par ricochet à d'autres, peut-être la Turquie elle-même. Et puis c'est très grave à long terme parce que ce matin, les dictateurs en puissance ou en réalité doivent se demander quel intérêt il y a à négocier sur le plan international un désarmement ou une suspension de leur programme nucléaire. On a d'un côté un Kim Jong-un qui triomphe en n'ayant pendant des années méprisé toute chance de négociation avec la communauté internationale et en a accéder par ses propres moyens à l'arme nucléaire, et face à cela, eh bien, des dirigeants iraniens qui avaient parié sur l'utilité d'un accord pour entrer de plein pied dans la scène internationale et qui se trouvent maintenant en quelque sorte privés des fruits escomptés d'un tel accord. Donc sur tous les plans...
Potentiellement, c'est catastrophique, c'est ce que vous nous dites.
Potentiellement, c'est absolument catastrophique. Et ça pose aussi, voyons peut-être aussi les aspects sinon positifs, du moins chargés d'espoir, la question de l'Europe demain, enfin aujourd'hui et demain, dans le système international, c'est-à-dire l'Europe a une carte à jouer.
Alors justement, Bertrand Badie, est-ce que l'Europe qui dit vouloir préserver cet accord a le moyen de le faire ?
Elle a absolument les moyens de le faire si elle se pose de manière unie et volontariste dans cette affaire. Les atermoiements, comme il faut bien le dire, ceux de la politique étrangère française, de ce point de vue-là, ont créé un doute. Les positions très fermes de Mme Mogherini, si vous avez observé, depuis le début de cette crise, qui expliquait que, effectivement, l'Union européenne devait continuer à défendre cet accord, il y a un chemin, il y a une carte à jouer avec des dangers, des menaces, notamment pour les entreprises européennes d'être sanctionnées et pénalisées par les États-Unis. Mais peut-on supporter longtemps comme ça qu'une puissance décide du choix diplomatique des autres à travers une menace?
Écrase tout.
Mais oui, à travers une menace permanente portée aux entreprises des autres. C'est un choix à opérer que l'Europe est capable de faire. Mais pour l'instant, il faut voir à court terme ce qui va se passer sur la scène moyen-orientale. Pas plus tard que cette nuit, Israël a lancé, semble-t-il, des raids sur la Syrie, les positions iraniennes en Syrie. Tout ressemble dans cette affaire à la volonté de griller une allumette pour remettre le feu dans la région, ce qui est extrêmement dangereux. Et puis il y a quelqu'un qui doit être très heureux dans son coin aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Parce que cette décision prise par Monsieur Trump vient singulièrement renforcer les atouts diplomatiques de la Russie dans la région.
Qui se dit officiellement profondément déçu.
Oui, mais ça, je pense qu'elle a du mal à garder son sérieux en disant une chose pareille, parce que il faut voir que la Russie a réussi à créer au Moyen-Orient le seul espace possible de négociation à travers le fameux triangle Ankara-Téhéran-Moscou. Alors, il ne fonctionne pas de manière pour l'instant très productive, mais les deux partenaires de la Russie, la Turquie et l'Iran ont toute raison d'accélérer, de renforcer ce triangle dans un contexte où les États-Unis, effectivement, ne leur laissent pas grand-chose sur le plan de la négociation.
Clément Terme, on vous rejoint à Londres où vous êtes chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'International Institute for Strategic Studies. Du point de vue iranien, est-ce que cette décision américaine est une catastrophe ?
Du point de vue iranien, en fait, c'était surtout les incertitudes qui avaient été créées par l'élection du président Trump qui avaient été une catastrophe. Parce que, comme l'a dit le professeur Badi, les Européens, dans cette histoire, étaient ceux qui étaient désignés pour récompenser l'Iran. Alors, le président Obama avait demandé aux Européens d'investir en Iran, de développer des relations commerciales avec l'Iran. Le président Obama avait même demandé aux entreprises françaises d'aller en Iran. Donc on est allé très loin dans cette demande faite à l'époque d'Obama. Et maintenant, M. Trump demande à ces mêmes Européens de se retirer d'Iran. Et le problème des Européens, et là il y a un vrai problème de souveraineté qui va au-delà de la volonté politique du président Macron, c'est l'indépendance des entreprises privées européennes et le fait qu'en fait, elles n'écoutent pas le président Macron ou la chancelière allemande. Les entreprises européennes, elles écoutent le président américain. Ouais. Le patron de Total, M. Pouyanné, à Davos, est allé voir M. Trump pour lui demander la permission de travailler en Iran. Il n'est pas allé voir le président Macron. Mmh. Donc vous voyez que les Européens sont dans une position très faible. Et à mon sens, ils vont être les victimes, si vous voulez, politiques, de cette décision du président Trump, parce qu'il va démontrer finalement que les Européens, au-delà des discours qui sont très fermes, n'ont pas vraiment de prise sur les événements et ne sont pas en capacité de peser sur le cours de l'histoire.
Édition spéciale sur RFI.
Alors on a évoqué quelques-unes des réactions à cette décision de Donald Trump, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui regrettent dans un communiqué commun, l'Arabie Saoudite et Israël qui se félicitent. Guilhem Deltaï, on vous rejoint à Jérusalem. Bonjour Guilhem.
Bonjour Arnaud.
Cette satisfaction affichée du Premier ministre israélien, elle sonne comme une évidence.
Oui, Benjamin Netanyahou a fait une allocution hier soir dans la foulée de celle de Donald Trump et il a rappelé son opposition de longue date à cet accord, une opposition qui datait du début, a-t-il dit. Son credo, il est vrai, a été « fix it or nix it ». Il l'a répété dans plusieurs assemblées, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, à plusieurs tribunes. « Fix it or nix it », ça veut dire « modifiez-le ou annulez-le ». Et c'était véritablement le combat de Benjamin Netanyahou depuis plusieurs années. Sa principale préoccupation, c'est la clause qui prévoit la fin des restrictions imposées à l'Iran en 2025. Pour lui, cela ouvre le chemin à un Iran doté de l'arme nucléaire. Benjamin Netanyahou n'a pas ménagé ses efforts du coup au cours des derniers mois et même des dernières années pour tenter de convaincre les signataires de cet accord, de la dangerosité du texte. Son intervention la plus forte, la plus emblématique peut-être, avait été la semaine dernière lorsqu'il avait révélé que les services secrets israéliens avait réussi à récupérer une demi-tonne d'archives nucléaires iraniennes. Depuis, ces services ont informé pas moins de 22 pays du contenu de ces documents. Logiquement, donc, étant donné son investissement dans la dénonciation de cet accord, Benjamin Netanyahou a salué effectivement cette décision de Donald Trump hier soir comme étant courageuse. Pour lui, ne rien changer à la situation actuelle aurait conduit à un désastre, que ce soit pour le Moyen-Orient, mais aussi plus largement pour la paix dans le monde.
Merci Guilhem Deltaï. À Jérusalem, Nicolas Falaise, vous revenez tout juste de Riyad, l'Arabie Saoudite, qui applaudit aussi à cette décision du président américain.
Ouais, le soutien hier soir a été immédiat suite à l'allocution de Donald Trump. Pour les Saoudiens, on a l'impression que cette pression accrue exercée sur l'Iran doit permettre de faire reculer la République islamique sur tous les fronts de la confrontation et de la tension dans la région. La vision saoudienne de l'Iran, c'est une République islamique qui étend aujourd'hui son influence en Syrie, au Yémen, en Irak, au Liban, et une république islamique qui aurait utilisé l'argent lié à la levée des sanctions pour accentuer cet effort de montée en puissance régionale. Alors, lorsqu'on parle avec les responsables saoudiens, ils décrivent de façon obsessionnelle cet Iran omniprésent et malfaisant, et ils entendent aujourd'hui faire reculer, faire rentrer le génie dans la bouteille sur tous ces foyers de confrontation régionale. C'est ce qu'espère l'Arabie Saoudite avec cette décision.
Bertrand Badi, on voit bien la confirmation des confrontations dans la région, qu'on connaît bien, Israël et Arabie Saoudite d'un côté, de l'autre côté, on a aujourd'hui l'Iran. Est-ce qu'on a un risque de guerre aujourd'hui, réel ?
Ah bah, tout à fait. Hélas, tout à fait.
Vous parliez d'étincelles tout à l'heure, d'allumettes.
Absolument. Il faut voir que cet axe Washington-Tel Aviv-Riyad est quelque chose qui s'est constitué dès l'accession au pouvoir de Donald Trump, qui s'est renforcé lors de son voyage il y a un an en Arabie Saoudite et qui semble structurer de manière permanente non seulement le paysage dans la région, mais les politiques étrangères émises à cette région. Regardez la synchronie entre la conférence de presse spectaculaire de Monsieur Netanyahou expliquant il y avait dans ses tiroirs
des
tonnes et des tonnes d'archives montrant que l'Iran mentait, etc. Regardez cette synchronie, les attaques israéliennes répétées sur les positions iraniennes en Syrie, et effectivement, cette politique étrangère de l'Arabie Saoudite obsessionnelle dans son hostilité à l'égard de l'Iran, et dont il faut bien comprendre le ressort, parce que ça aussi c'est un élément du puzzle. Lorsque est passé le printemps arabe, les trois capitales califales du monde arabe, c'est-à-dire le Caire, Damas et Bagdad, ont perdu de leur puissance régionale. Il n'y a plus, à partir de 2011, de leadership dans le monde arabe. L'Arabie Saoudite est candidate à ce leadership. Et que voit-elle, que découvre-t-elle? Que deux puissances non arabes de la région, la Turquie et l'Iran, sont en situation, sinon d'être leaders de ce monde arabe, du moins d'en régler la circulation. Et face à cela, effectivement, la réaction de l'Arabie Saoudite est d'autant plus forte que le prince héritier, Mohammed ben Salman, a utilisé la politique étrangère comme marchepied pour arriver au pouvoir. Donc il y a tous les ingrédients d'une crise majeure. L'Arabie Saoudite a besoin d'un affrontement avec l'Iran, verbal et rhétorique, mais qui risque d'aller plus loin. Israël, les positions de Netanyahou considérablement affaiblies dans son pays, qui risque de se retrouver derrière les barreaux, la situation absolument explosive à Gaza, tout ça, ce sont des éléments qui donnent à cet axe Riyad-Washington-Tel Aviv une importance et une dangerosité dont il faudra suivre effectivement les éléments dans les semaines qui viennent. Et c'est là que je pense que l'Europe a quelque chose à dire. Parce qu'effectivement, elle est affaiblie par le chantage de ses entreprises, comme le disait très bien très Clément Terme, mais elle a une carte diplomatique à jouer.
Clément Terme, quelles sont les options pour le régime iranien? On a entendu le président Rouhani dire qu'il voulait continuer à respecter l'accord. Est-ce que ce sera forcément la position du régime?
Oula, c'est très compliqué parce qu'en Iran, il y a toujours plusieurs positions. Vous savez, c'est d'ailleurs un problème pour créer la confiance.
La répartition du pouvoir est complexe, oui.
Et donc, il y a plusieurs positions en même temps, et ce qui crée une difficulté pour négocier avec l'Iran. Je pense qu'il va y avoir pendant quelques semaines une réflexion au sein des élites politiques iraniennes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La seule alternative, c'est d'aller encore plus vers la Russie et la Chine, mais c'est déjà le cas, et ces puissances qui sont de puissances dotées du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, instrumentalisent l'Iran dans leurs relations avec les États-Unis. Donc finalement, la stratégie d'auto-isolement de l'Iran depuis la révolution islamique de 1979 a conduit le pays dans une impasse. Et Trump, en fait, clarifie, vous voulez, l'anti-américanisme. Des mots-là, il a bien mentionné dans son discours qu'on criait mort à l'Amérique. En Iran, encore aujourd'hui, on ne crie pas mort à l'Amérique en Arabie Saoudite. Donc il faut bien comprendre que les mots-là sont aussi responsables à travers une prophétie auto-réalisatrice de la situation actuelle de leur pays. Et Obama était une parenthèse, parce que c'était un intellectuel. Il voulait se rapprocher d'un rival depuis la révolution de 79. Et Trump, c'est un retour aux années Bush, si vous voulez. C'est pas tellement nouveau, le discours de Trump. Au contraire, apparaissait encore une fois très daté, comme celui du mois de novembre. Et l'Iran, en fait, va se trouver dans une situation de blocage. Parce que Trump stimule, si vous voulez, l'anti-américanisme des mollahs, mais qui était toujours là, qui était mis un peu sous le boisseau et qui va réapparaître. Si vous voulez, il va accélérer la fin, la mort politique du président Rouhani, qui était prévue, parce qu'en Iran, si vous voulez, il y a une alternance entre modérés et conservateurs. Il y a eu des manifestations en Iran début janvier qui n'ont rien à voir avec le président Trump, qui sont liées au mécontentement local, et donc la population, si vous voulez, en Iran, même si elle est nationaliste et qu'elle apprécie très peu, si vous voulez, le changement de position des États-Unis, va, à mon sens, continuer à reprocher aux élites politiques iraniennes la situation du pays.
Donc, par cette décision, Donald Trump renforce les conservateurs iraniens.
Oui, mais en fait, ils accélèrent, si vous voulez.
Il accélère un processus.
qui était déjà en cours et qui n'est pas lié à Trump, qui est lié, si vous voulez, à l'incapacité du président Rouhani, du fait du système politique iranien, à tenir ses promesses, parce qu'il avait même promis l'année dernière, lors de la campagne électorale, la levée des sanctions non nucléaires. Et là, le président Trump vient de rétablir les sanctions liées au nucléaire. Donc c'est un échec total par rapport aux promesses qu'il a faites au peuple iranien. Pour réussir, il aurait fallu qu'il change toute la politique régionale de l'Iran et qu'il cesse de défier les intérêts occidentaux dans la région, puisque ce n'est pas conforme aux intérêts nationaux du pays. Et les manifestants en Iran l'ont dit très clairement au mois de janvier. Laissez tomber la Syrie, laissez tomber les guerres régionales et occupez-vous de votre pays, de l'Iran et du développement économique du pays. Et le président Rouhani, comme il n'a pas la main, si vous voulez, sur la politique régionale de l'Iran, c'est les gardiens de la révolution, qui sont très fondamentalement anti-israéliens, anti-sionistes, cela crée le problème avec l'Occident. Et il était, si vous voulez, facile pour le président Trump de rétablir la position traditionnelle des États-Unis sur la question iranienne.
Merci à vous, Clémentine, pour ces éclairages. Merci aussi à Bertrand Badie. Je suis désolé, je ne peux plus vous passer la parole. Si vous vous insistez, ben allez-y, mais vous avez 30 secondes, Bertrand Badie.
Non, je crois qu'on va assister au retour de quelque chose qui est connu depuis un certain temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diplomatie protestataire. Faute de pouvoir créer du nouveau, le nouveau c'était à un moment l'accord sur le nucléaire, eh bien on va protester. Et la diplomatie protestataire ou la diplomatie déviante, ça paye. Ça paye sur le plan intérieur et ça paye aussi sur la capacité de bloquer le jeu international. Nous sommes dans un monde où la puissance n'est plus infinie, mais où en revanche la protestation et la nuisance peuvent devenir des paramètres plus déterminant encore de l'organisation du système international. Et c'est ça le grand danger, le retour en force de cette diplomatie protestataire.
Merci pour cet éclairage, Bertrand Badie. Bon, Frédéric Couteau, il vous reste 2 minutes pour nous dire ce que la presse française nous dit de tout cela ce matin.
Oui, les journaux s'interrogent ce matin après cette décision de Donald Trump. Pourquoi se demande tout d'abord Libération. Trump critiquait l'accord pour plusieurs raisons, répond le journal. D'abord à cause de la Sunset Clause, sa clause d'extinction, l'engagement iranien à ne pas développer l'arme nucléaire à aller jusqu'en 2025. Bien trop court, jugeait-il. Ensuite, pour sa portée limitée, l'accord ayant pour but d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, mais pas d'endiguer son influence. Enfin, parce que cet accord n'empêchait pas l'Iran de tester ses missiles balistiques à longue portée.
Et ces arguments ne pèsent pas bien lourd pour la Croix.
Oui, il y a quelque chose d'inexplicable dans cet acharnement de Donald Trump à dénigrer cet instrument d'une désescalade nucléaire au Moyen-Orient, s'exclame la Croix. Personne ne prétendra que le dispositif auquel étaient parvenus les négociateurs il y a 3 ans était idéal. L'accord avait une durée limitée dans le temps, laissait de côté les projets balistiques de l'Iran, c'est-à-dire sa volonté de se doter de missiles capables de frapper ses ennemis régionaux, Israël et Arabie Saoudite. Mais plutôt que de compléter patiemment cet accord, comme le proposaient les Européens, Washington, appuyé par Israël, donc a choisi de s'en dissocier. Là, on a beau chercher, renchérit le républicain Lorrain, on tente en vain de déceler le début du commencement d'un quelconque profit pour la communauté internationale, avoir ainsi déchiré l'accord nucléaire iranien. Outre qu'elle fragilise un peu plus la paix, cette charge au bulldozer fait le jeu des faucons iraniens, opposés au réformisme du président Rouhani. Tant pis pour cette jeunesse iranienne, s'exclame le journal qui ne demandait qu'à papillonner de l'effet. Et Trump, elle a désormais tout à redouter.
Et le Figaro avance une hypothèse, Trump espère sans doute faire plier Téhéran comme Pyongyang.
Oui, mais l'Iran n'est pas un pays ermite et sans ressources, pointe le Figaro. Les mollahs voient comment Kim Jong-un a réussi à se faire respecter en se hissant dans le club atomique. Ils voient aussi que Trump vient de s'entourer à la CIA et au département d'État de faucons adeptes du changement de régime. Et le Figaro de prévenir, si cet accord nucléaire sombre définitivement, l'avenir est lourd de 2 menaces. À court terme, un affrontement entre Israël et l'Iran. À plus long terme, une relance tous azimuts de la course à l'atome.
Merci à vous, Frédéric Couteau, voilà pour le coup d'œil à la presse française du jour. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. Dans une minute, vous retrouvez l'actualité africaine.